Nous allons prier, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur, que Dieu nous donne la bénédiction, qu'il donne ce dont nous avons besoin, surtout la juste prise de position, pour le servir, pour l'honorer, pour le remercier. Et sûrement qu'il va nous donner en échange ce que nos cœurs ont besoin, ce dont nos cœurs ont besoin, guérison, le soulagement, et de beaucoup d'autres choses, beaucoup, beaucoup de choses. Et on croit que le Seigneur est disposé pour nous donner, alléluia. Et on croit ça encore ce soir, amen. Même si c'est une plateforme qui nous sépare, et qu'on n'est pas présent physiquement, mais je crois que le Seigneur est toujours présent. C'est une chose qui est un peu, qui nous travaille un peu, fait qu'il nous fatigue un peu. Le frère Franck, bon, c'est pas parce que c'est frère Franck, mais même l'Écriture dit, Il veut pas se réunir avec des masques. C'est une chose qui, devant Dieu, c'est pas bien. C'est pas scripturaire. C'est mieux d'ouvrir la bouche pour louer le Seigneur que d'être là avec un masque muet. Voilà, que le Seigneur s'occupe de ces choses. Alléluia. Merveilleux Père Céleste, c'est avec joie et remerciement qu'on vient à ta présence. Nous croyons, nous voyons qu'encore aujourd'hui, tu vois nos cœurs, tu connais le secret des cœurs. Et encore ce soir, nous invoquons tous ensemble ton nom, ce nom merveilleux de Jésus-Christ, que tu nous as donné à connaître, à servir, que tu nous as donné d'aimer pour être vraiment un avec lui. Et encore ce soir, nous te prions de venir à notre aide, de soutenir notre vie et de laisser ta présence dans nos vies. Regarde chacun d'entre nous afin que nous puissions vraiment t'honorer et que tu puisses répondre à chaque requête de nos cœurs. Fais grâce, Seigneur. Béni. Tu vois que le temps passe. Il y a quelque chose qui est en train de maturer pour qu'on se réunisse un jour ensemble et ça nous réjouit. Mais toi aussi, Seigneur, toi-même, Seigneur, tu es en train de préparer chaque chose pour tout cela. On est entre tes mains et nous croyons que dans ton action, dans ton faire, selon ta volonté, selon ce que tu veux, tu feras toute chose juste et parfaite. Et nous voulons rester à l'écoute de ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous. Merci encore pour ce soir. Bénis, sanctifie et glorifie ton Saint-Nom. Et reste avec nous pour toute cette soirée et encore pour la suite. Parce que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Merci Père Céleste. À toi l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration et tout ce que nous pouvons te donner. Et nous-mêmes, nous voici Seigneur. Tu nous as formés encore. Tu n'as voulu ni offrant ni sacrifice, et nous voici, Seigneur, nous tous, devant toi, Seigneur, pour t'honorer et te remercier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Nous allons commencer. C'est un titre du frère Franck qui s'intitule Thème varié. Thème varié. Lettre de la lettre circulaire de décembre 2007. Donc divers thèmes. Il y a plusieurs thèmes. Donc on lit, il y a plusieurs thèmes qui, en ce moment, sont des sujets d'inquiétude pour l'humanité et qui occupent les pensées des croyants. Le changement climatique, les catastrophes naturelles, la soi-disant guerre contre le terrorisme, War on Terror en anglais, la flambée des prix de l'énergie, l'injustice sociale, la globalisation, la chute du dollar américain et l'utilisation de l'euro par les pays producteurs de pétrole, l'union de toutes les religions et églises chrétiennes sous Rome, la constellation politique Russie-Iran-Chine, le processus de paix au Proche-Orient, la théorie des deux États, la question cruciale de Jérusalem, et en dernier, ce qui n'est pas sans importance, le gouvernement mondial. Zacharie 12. Vous pouvez le lire, verset 3. Vous pouvez le lire. Dieu lui-même a dit que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples. Et voilà. Et celui qui trébuche dessus se ferait mal. Et on croit qu'en ce moment, donc ça, cette parole, c'est vraiment l'ordre du jour. Zacharie 14. Donc je continue la lecture. À l'occasion de son 50e anniversaire, nous avons été remémorés du traité de Rome, qui fut signé en mars 1957. Depuis le 21 décembre 2007, il n'y a plus de contrôle douanier et plus besoin de passeport entre les 27 pays de l'Union européenne. La dernière puissance mondiale prend définitivement forme. Donc Apocalypse 7, 17, si vous voulez lire à la maison tranquillement. L'enseignement biblique sur la création a été ridiculisé dans une directive du Parlement européen à Strasbourg, le 4 octobre 2007. La majorité des voix, 48 contre 25, a voté pour que seule la théorie de l'évolution soit enseignée dans les écoles. Ça, c'est ce qu'on subit maintenant, c'est ce que les parents subissent à travers leurs enfants, vous voyez. Donc ils doivent supporter cette chose-là. Voilà, la théorie de l'évolution. Donc ils ont voté, elle a voté, le Parlement a voté que seule la théorie de l'évolution soit enseignée dans les écoles. Les blasphémateurs deviennent de plus en plus éhontés, dépassant toute limite. L'un d'entre eux a même choisi comme titre de son livre « La démence de Dieu ». Un autre opta pour en tête « Le Seigneur n'est pas un berger ». Est-ce que vous vous rendez compte? C'est terrible. Et en effet, l'impiété est en hausse de manière flagrante, comme cela a été annoncé pour la fin des temps. Le monde entier est devenu comme Sodome et Gomorre. L'ordre divin du mariage établi par Dieu, ainsi que la famille, sont considérés comme démodés, et l'homosexualité, chose contraire à l'ordre divin de la création, est publiquement admise et considérée normale. Donc c'est des choses qu'on voit, mais c'est la vérité de Dieu. Comme on l'a déjà dit, la parole de Dieu, ce n'est pas que pour les croyants, c'est pour tout le monde. Donc voilà pourquoi, disons, tout le monde est sous cette tension, sous cette chose qui arrive, tout le monde entier, que ce soit croyant ou non-croyant. Voilà. Ici, on arrive à la lettre circulaire de mars 2008. On continue à lire. Il y a aussi des passages des Écritures qu'on va lire. Lettre circulaire mars 2008. Dans le message à l'église de Pergame, le Seigneur fit une sérieuse récrimination. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Apocalypse 2.14. Donc n'oubliez pas que ce sujet, c'est toujours le thème du mariage et du divorce. Donc, correction, séparation, etc., la position de l'homme et de la femme, etc. Donc, c'est ça. Donc, ici, on continue, même si des fois ça répète, mais souvent, il y a un autre angle, et là, le frère Franck apporte un autre angle, et on a plus de clarté, de compréhension. Donc, dans le message à l'église de Pergame, le Seigneur fit une sérieuse récrimination. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Apocalypse 2.14. Cela est manifeste que la doctrine de Balaam fut contraire à la doctrine des apôtres. C'est normal. Certains pourraient croire que cela n'était pas possible, que l'ennemi ait pu, déjà au commencement, trouver une brèche dans l'église primitive et s'introduire pour essayer d'empêcher la réalisation du plan du salut. Et ça, c'est vrai. Selon le témoignage des Saintes Écritures, l'Église de Jésus-Christ est l'endroit sur la terre, donc l'Église de Jésus-Christ est l'endroit sur la terre où Dieu révèle sa parole. C'est le corps de Christ, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. Un passage qu'on connaît déjà. Donc faites attention aussi. Donc je répète, l'Église de Jésus-Christ est l'endroit sur la terre où Dieu révèle sa parole. C'est le corps de Christ, la colonne et l'appui de la vérité. On va lire d'autres passages après. Aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 2,21. Le mensonge n'est qu'une perversion de la vérité. Par exemple, un sujet peut être biblique. Faites attention à ces mots, à ces paroles, c'est profond, précis et très important. Donc on a traité de ce sujet jusque maintenant. Donc mais c'est l'esprit qui doit guider, qui doit mettre toute chose à sa place. Donc c'est important de prendre conscience de ce qu'on lit. Aucun mensonge ne vient de la vérité, 1 Jean 2,21. Le mensonge n'est qu'une perversion de la vérité. Par exemple, un sujet peut être biblique, mais ce que les hommes en disent ou écrivent peut s'avérer anti-scripturaire. Est-ce que vous voyez la position? Comment ça peut venir? Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe maintenant, c'est ça. Donc un argument, un sujet peut être biblique, mais nous, toi, moi, les hommes, peuvent écrire des choses qui sont anti-scripturaires. Et c'est de cette manière que cela a commencé dans le jardin d'Éden. Voilà. Voilà, on va lire Jean 1.1. Voilà pourquoi on sait tout cela, ce passage. On le connaît. Mais néanmoins, Dieu n'a jamais rien fait, rien, que ce soit pour son peuple d'Israël, que ce soit pour les autres peuples païens, les gentils. Il n'a rien fait sans sa parole. Chaque chose a été faite par et pour sa parole. Jean 1 le dit. C'est si clair. Il faut avoir la compréhension nette. Donc, évangile de Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Par elle. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Amen. Et ensuite, on parle d'un homme et d'un homme. On parle de Jean-Baptiste ensuite. Ensuite, il est écrit que Dieu s'est fait chair et il est devenu un homme. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Donc tout a été fait par la parole, mais tout, il n'y a rien. Rien qui n'ait pas été fait par la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que le Seigneur nous exhorte à travers le message, c'est de retourner à l'original, à l'origine de cette parole, pas aux interprétations, pas à des visions personnelles de la chose, ou des paroles, des compréhensions personnelles, non. Seulement à ce qui était la parole de Dieu. Alléluia. Jean 3, 27, le passage qu'on connaît déjà. Jean 3, 27. Un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Et aussi dans Jean 15, vous ne pouvez rien faire sans moi. N'est-ce pas? Ça, c'est pour les chrétiens. Mais le monde, il ne se rend pas compte que malgré tout, il se fatigue, il travaille, il s'épuise, il sue, il tremble avec tous ses. Parce que tu dois travailler la sueur de ton front. Mais il ne se rend pas compte que c'est Dieu qui fait les choses. Et ils ne se rendent pas compte que ils ne se rendent pas compte que sans Dieu, ils n'ont rien. Mais le croyant se rend compte. Mais les incroyants ne le voient pas. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous donne toujours plus cette compréhension. De pouvoir dire que sans la parole, on ne peut rien faire. Voilà d'où ça doit venir quand il y a un sujet, par exemple, ou quand il y a une préoccupation, un sujet, quelque chose à résoudre. Naturellement, l'homme, avec ses forces, il essaie de le faire. On essaie de faire quelque chose. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Voilà, il est écrit, cherchez d'abord le règne de Dieu, sa justice, cherchez sa face. Nous qui sommes croyants, nous qui avons accepté de se soumettre à sa volonté, et on cherche son conseil, on cherche ce que l'Écriture dit. Et par l'Écriture, on peut résoudre les problèmes, la situation difficile qui se présente. Donc on y croit. Amen. Donc, je le crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi on est en train de travailler dans cette direction. Amen. Je continue. Et ensuite, je lirai un autre passage. Donc faites bien attention ici. Et ça, c'est pour tout le monde. Satan reste dans le sujet, mais ne demeure pas dans la vérité. Vous comprenez? Satan reste dans le sujet, mais il ne demeure pas dans la vérité. Parce que lui, il a perverti. Parce qu'on a dit que c'est la perversion de la vérité. Le mensonge, la séduction, c'est une perversion de la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Juste, vous comprenez? Amen. Voilà où est la chose. Donc il peut rester sur des sujets. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages qui restent un peu dans le sujet comme ça. Mais pas dans la vérité. Parce qu'il y a une seule vérité. N'est-ce pas? Amen. Et c'est seulement Dieu qui détient cette vérité. Et c'est écrit. Et c'est écrit. Vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Juste. Alléluia. C'est seulement ça qui nous libère vraiment. Parce que c'est seulement Dieu qui a la parole de la vérité. Ça n'appartient pas à l'homme. Absolument pas. Donc ici, on a vraiment besoin de connaître la vérité. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Alors ici, on peut lire Nombre 11, 22. On peut lire le livre des Nombres 22. 11, 22. Barbalam. Nombre 11, 11, 22. On parle de Balaam ici. Et on connaît ce passage. On va lire un peu au-dessus. C'est peut-être 22-11. Oui, pardon, c'est 22-11. Nombre 22-11. C'est le contraire. Donc, on parle de Balaam. Balaam, il est resté aussi dans le sujet, il est resté un peu dans le sujet, mais pas dans la vérité. Il est resté dans le sujet, parce que Dieu l'avait dit de ne pas y aller. Vous voyez? Et alors là, on peut lire ici, on peut suivre parfaitement ses pas, ses mouvements. Regardez, où il est écrit, donc 22, 12 et 12, « Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. » Tu ne maudiras pas le peuple car il est béni. » Et alors il continue. Voilà qu'il m'a encore envoyé, voyez. Là. Et puis au 22, « Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en alla, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. » Vous voyez? Donc il était bien dans le sujet, mais pas dans la vérité. Amen. N'est-ce pas? Vous avez compris? Alléluia. Donc combien aujourd'hui les prédicateurs sont dans le sujet, mais pas dans la vérité. Ils ne restent pas dans la vérité absolue. Parce que la vérité absolue, c'est un seul qui la détient. C'est Dieu. C'est le Seigneur. C'est la parole. La parole est la vérité, n'est-ce pas? Ta parole est vérité. Sanctifie-les à travers ta parole. Ta parole est vérité. Amen. Alléluia. Et c'est là qu'on voit comment tout se concentre là-dessus, comment c'est important. L'importance, le désir, je crois, c'est de connaître. Les chrétiens ont besoin de connaître la vérité parce que ça nous rend libres. Libres du péché, des obsessions, de la maladie, de n'importe quoi. Ça nous rend libres de tout. Parce que le diable nous a rendus esclaves. Le diable nous a soumis. Et depuis la Genèse, au commencement, dans le jardin d'Éden, ça s'est passé comme ça. Et c'est seulement la vérité de Dieu qui peut nous rendre libres. Alors, la condition, tu agis, tu obéis, et tu fais la volonté, et Dieu te libère. Alléluia. Il s'agit de cela, c'est ainsi dit l'Écriture. On continue ici, dans le frère Franck ici. Dans le message à l'ange de l'église de Thyatire, nous lisons un autre grief. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Apocalypse 2:20. Assurément, Dieu n'a établi dans son Église que des prophètes, que des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. Mais il n'a jamais établi, on l'a déjà dit, et je le répète ici. Donc, dans cette lettre de mars 2008, le frère Franck répète, mais il apporte quelque chose en plus, un autre point. Mais il n'a jamais établi, donc assurément, Dieu n'a jamais établi de son Église que des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. Mais il n'a jamais établi des prophétesses ou des femmes apôtres et doctoresses. Cependant, au temps même des apôtres, une femme se présenta elle-même en tant que prophétesse et doctoresse, séduisant les serviteurs de Dieu. Déjà dès le commencement, cela fut l'intention de l'ennemi de séduire le peuple de Dieu. Donc quand on parle de femme, cette femme Jézabel, donc il faut bien se représenter la chose. Ça nous fait penser à quoi? À nous, les croyants du message de l'heure. Donc ce sont des églises en réalité, des églises qui cherchent à prendre la place du Seigneur. La suite, on va voir un peu après. Ils prennent ensuite la place de la vérité absolue de Dieu. Donc ils se glissent dedans. Ils sont divisés les uns avec les autres, totalement séparés, et ils se font la guerre les uns avec les autres. Voilà où est le grand problème aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est toujours la même chose, ça subsiste. Mais Dieu nous a promis qu'il va nous libérer de tout cela. Et il va libérer son peuple. Non, je continue ici. Je continue. Dieu, par le prophète Ézéchiel, nous montre l'insupportable désarroi que suscite le mauvais usage des dons spirituels et son effet sur le peuple. Cela peut même entraîner la mort des âmes précieuses. Et lui, et beaucoup d'autres, ont fait l'expérience pour provoquer ça. Lisons, nous continuons. Donc Dieu, par le prophète Ézéchiel, nous montre l'insupportable désarroi que suscite le mauvais usage des dons spirituels et son effet sur le peuple. Cela peut même entraîner la mort des âmes précieuses. Ainsi dit le Seigneur, et toi, fils d'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétise contre elle. Ainsi. Donc voilà. Et toi, ainsi dit le Seigneur, et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à elles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Ézéchiel 13, 17 et 18. On a déjà été dans ce sujet ici. On a déjà été là-dedans. Donc dans Ézéchiel 13, au verset 17. On avait déjà parlé de cela. D'un mur qui était presque en train de tomber. Et quand il parlait de sépulcre blanchi. Donc j'abattrai ces arbres à terre, tous ces murs, l'ombre qui semble tenir. Mais en fait, ce sont des murs qui ne tiennent pas. Au souffle de Dieu, à la vérité de Dieu, quand la vérité est exposée parfaitement, ce mur tombe. Il doit tomber. Parce que ça, c'est le diable, c'est Satan, qui empêche de faire réaliser le plan de Dieu parfaitement. Vous voyez ? Verset 17. Ézéchiel 13, 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, qui font des voiles pour la... Donc, en italien, il y a une traduction, certaines traductions, pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des personnes de toute taille, afin de surprendre les âmes. Ou surprendre les âmes. Surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Voilà. C'est Dieu qui intervient vraiment pour défendre son peuple. C'est important cette parole. Vous voyez? Ézéchiel 13, 17 et 18. Parce qu'on voit, on le voit exposé, on voit ça. C'est pour ça qu'on a dit que Satan, il reste dans le sujet, mais pas dans la vérité. Vous voyez, c'est ça. Je continue à lire ici. Dans l'église de Thyatire, l'ennemi utilisa une femme qui avait le don de prophétie afin d'égarer les serviteurs de Dieu qui étaient impressionnés par son don. Ils furent séduits parce qu'ils n'avaient pas le don de discernement des esprits. Il y a encore ici. Même ceux qui portaient des responsabilités dans l'Église la considéraient avec respect, sans se rendre compte qu'eux-mêmes, et par conséquent l'Église, avaient perdu le respect envers la parole de Dieu, c'est-à-dire pour la vérité, juste. Le don de prophétie ne fait pas d'une femme une prophétesse, encore moins une doctoresse spirituelle. Les quatre filles de Philippe, l'évangéliste, avaient le don de prophétie, acte 21, mais elles n'étaient pas des prophétesses, voyez. 1 Corinthiens 12, on va lire 1 Corinthiens 12, on connaît ce passage, on va le lire quand même encore une fois. Pour bien rentrer dans le sujet. Donc on parle des dons. On parle de dons. 1 Corinthiens 12. On parle des dons de service. Plusieurs. Donc c'est important de savoir qu'il y a des dons, de guérison, prophétie, discernement, etc. Donc le don qu'avait Salomon, on va le dire après, c'était la sagesse, mais lui l'a demandé de lui donner du discernement. Donc même le frère Branham, on l'a déjà dit ça, même le frère Branham a parlé que le plus grand des dons que Dieu pouvait donner à l'Église, c'est la sagesse, égale discernement, qui va avec le discernement. Vous avez compris? On va lire cela. Lévitique 10, 10. Lisons Lévitique 10, 10. Lévitique 10, 10. Donc le devoir des prêtres. Alors, Lévitique 10, 10. Un statut perpétuel en vos générations, afin que vous discerniez entre ce qui est saint et ce qui est profane, et entre ce qui est impur et ce qui est pur. Quand on lit un Corinthien, il y a des gens qui parlent et d'autres qui écoutent et qui discernent ce qui est dit. Ça ne veut pas dire juger, ça veut dire discerner, comprendre si c'est vraiment le Seigneur ou s'il y a quelque chose d'autre que le diable est en train d'essayer de mettre à l'intérieur. De faire entrer. Ça, c'est important. Maintenant, on va voir Salomon, un roi 3, 9. Un roi 3, 9. Un roi 3, 9. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple? Ça, c'est Salomon qui a demandé une grande chose comme ça. Et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur que Salomon ait demandé cette chose. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi du discernement afin de comprendre le juste jugement, voici, je t'ai fait selon ta parole. Voilà, c'est le discernement. Et même des gens de loin venaient pour l'écouter. Et maintenant, ce don fait partie de l'Église. Vous y croyez? Ça fait partie de la restauration des dons que Dieu a donné à l'Église. C'est important, mes amis. Amen. Ça nous aide à comprendre et à discerner où est la chose juste et la chose erronée. De façon que, quand on va rendre compte devant Dieu, on peut dire, voilà Seigneur, c'est comme ça. Et Dieu nous approuve. Sinon, c'est le diable qui va nous approuver. Alors là, si c'est le diable, ça va nous éloigner de Dieu. C'est juste, alléluia. Luc 4, 10. Parce qu'on dit, oui, il dit, oui, je comprends. Mais on comprend les choses qu'on voit, ou qu'on pense. Mais le discernement de Dieu, c'est tout différent. Discerner l'esprit, c'est tout différent. C'est important. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, plus que maintenant, elle peut l'avoir, elle peut le posséder. Afin qu'elle puisse vaincre la bataille. Jusqu'à la fin. Luc. On a dit Luc 4. Luc 4, 10. Luc 4, 10. Il te donnera Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. C'est des psaumes. Et Jésus répondant lui dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, c'est écrit, mais c'est aussi écrit. Je crois que c'est ça la chose importante. Donc il est aussi écrit. Donc c'est l'autre de Jésus. Je l'ai aussi écrit, c'était ça la vérité. C'était l'autre qui reste dans le sujet, mais qui est la vérité. Alléluia. Vous avez compris? C'est important. Je crois que Dieu nous aide dans sa direction. Alléluia. On va prendre Proverbe 4.1. Proverbe 4.1. Proverbe 4.1. Voilà, ça colle très bien avec. Fils, Proverbe 4.1. Fils, écoutez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Donc, il y a aussi la prudence dans la Diodati, dans la Bible. Et on peut dire aussi discernement. Discernement aussi. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Amen. Donc, ce qu'on a lu. Donc ici, parfois, on a peur de quelque chose de surnaturel qui vient, de spirituel. Et ça nous fait perdre un peu le sérieux de la chose. On se laisse entraîner au lieu de rester attentif et se poser la question, mais d'où ça vient ça? Vous avez compris? Voilà pourquoi le roi que le monde, que les églises veulent, le roi que les églises veulent, c'est ce roi-là. C'est de lui dont il faut faire attention. Parce que là, ce roi qu'ils veulent, les apporterait vers une mauvaise fin. Mais que Dieu nous fasse grâce. Donc je lis, le frère Franck ici. Donc les prophètes établis par Dieu dans l'Église font partie des cinq ministères, Éphésiens 4, 11. Le don de prophétie est l'un des neuf dons de l'Esprit, 1 Corinthiens 12. Dans l'Ancien Testament, il est fait mention de la prophétesse Myriam, Exode 15, de la prophétesse Déborah, Juge 4, de la prophétesse Hulda, 2 Rois 22, d'une prophétesse qu'Ésaïe prit comme femme. Ésaïe 8, 3. Toutefois, aucune d'entre elles n'eut un ministère de l'Église. La même chose avec la prophétesse Anne dans l'Évangile de Luc 2, 36 à 38, lorsque le Seigneur a été présenté. Simon était là et aussi la prophétesse Anne. Tout ce qui appartient au plan du salut fut révélé à ses 12 serviteurs, les prophètes et les apôtres. Vous voyez? Tout ce qui appartenait au plan du salut fut révélé à ses 12 serviteurs, les prophètes et apôtres. Éphésiens 3, 5 et Apocalypse 10, 7, etc. Les ministères et les dons doivent être placés correctement dans l'ordre divin et laissés à leur place. Et laisser à leur place. Amen. Satan s'interfère toujours là où l'Esprit de Dieu, il s'interfère toujours là où l'Esprit de Dieu fait quelque chose de spécial dans l'Église. À chaque fois, il le fait avec les mêmes intentions. Renverser l'ordre divin, remettre en question et tordre ce que Dieu a dit, apporter de la confusion et discréditer les serviteurs de Dieu afin de perturber l'œuvre et le plan de Dieu. Néanmoins, le conseil de Dieu demeure pour toujours. Amen. Vous voyez ? L'Église de Jésus-Christ ne peut être vaincue par la puissance de l'enfer. C'est écrit. Matthieu 16, c'est écrit. Et les portes de l'enfer. Ne prévaudront pas contre elle. Ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Amen. Donc c'est important de se fonder sur la parole, parce que c'est seulement cette parole qui subsiste. Jean 1, tout a été fait par la parole. Et sans rien n'a été fait. Alléluia. Je continue. L'Église de Jésus-Christ ne peut être vaincue par la puissance de l'enfer. L'épouse de l'agneau peut temporairement sortir du pain. On l'a déjà dit, un petit moment d'égarement, un petit moment où on peut perdre le contact, le contrôle. Ok, c'est possible. Mais néanmoins, cet homme et cette femme restent élus. Ils sont fils et filles de Dieu. Ils restent pour toujours élus. Donc, l'épouse de l'agneau peut temporairement sortir du pain, comme frère Branham l'a vu dans la vision. Mais elle ne peut pas être séduite ou trompée. Elle sera ramenée au pas et elle pourra ainsi être prête et sanctifiée pour prendre part au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19. Alléluia. Donc c'est important. Disons que ce discernement s'instaure, vient dans l'Église de Jésus-Christ. Vient maintenant de la restauration, parce que ça fait partie de la restauration. Voilà pourquoi, à cause de beaucoup de problèmes qu'il a eu dans le passé, il y a eu un frein, il y a eu comme un frein à certaines manifestations qui étaient un peu mélangées avec l'esprit pentecôtiste, le mouvement pentecôtiste. Donc cette chose-là a été compromise. Donc c'était plus la vérité. C'était, il y avait un peu du sujet, mais ce n'était pas la vérité absolue. Vous voyez ? Donc, alors il y a les âmes qui étaient un peu ballottées, mais elles étaient un peu conditionnées à travers ces prophéties, disons. Je continue. Pour atteindre, donc il y a quelques lignes qui ont été un peu passées, et on continue toujours dans la même lettre. Pour atteindre son objectif, Satan s'en prit au mariage en donnant une fausse interprétation de 1 Corinthiens 7. Comme si cela allait de soi qu'une femme qui a quitté l'Église puisse soudainement dire à son mari « J'ai le droit de me séparer de toi, pourvu que je reste seule. » Pourvu que je reste seule. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 7. Donc ça c'est entre guillemets. C'est la femme qui dit « J'ai le droit de me séparer de toi, pourvu que je reste seule. » C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 7. Ça, c'est ce qui est dit par la femme. Donc, je répète. Comme si ça allait de soi qu'une femme qui a quitté l'Église puisse soudainement dire à son mari « J'ai le droit de me séparer de toi, pourvu que je reste seule. » C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 7. Le frère Franck dit que cela fut le mensonge satanique directement lié à une autodestruction préméditée. C'est la destruction que le frère Franck explique des années 70-70. Donc il essaie d'éclaircir et il nous donne à nous une instruction, un enseignement pour pouvoir rester juste et équilibré de la parole de Dieu. Cependant, cela n'est pas du tout écrit de cette manière. Avant le verset 11, il y a le verset 10, où nous lisons « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, Ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, mais le Seigneur. Cette déclaration n'est-elle pas suffisamment claire? N'est-elle pas en accord avec les autres Écritures qui traitent du même sujet? Ne s'accorde-t-elle pas en tout point avec ce que Frère Branham enseigna d'après l'ordre du Seigneur, particulièrement dans la prédication mariage et divorce? Ce qui est écrit au verset 11 n'est que dans le cas où cela serait déjà arrivé, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et non pas pour qu'à n'importe quel moment elle décide de se séparer de son mari ou d'introduire une demande en divorce, une demande de divorce. Donc il se rapporte à ce qui s'est passé dans l'église de Krefeld. Et on l'écoute tous maintenant. C'est une vérité absolue. Non, ce n'est que dans le cas où cela s'était déjà produit. Alors elle doit demeurer seule ou se réconcilier avec son mari. Aucune des autres écritures appartenant au même sujet ne furent prises en considération. Donc la vérité est là. Donc je relis. Non, ce n'est que dans le cas où cela s'était déjà produit. Alors elle doit demeurer seule ou se réconcilier avec son mari. Aucune des autres écritures appartenant au même sujet ne furent prises en considération. Donc, Frère Franck écrit, Satan utilisa exclusivement une écriture en troquant, en échangeant les mots séparation et divorce. Donc on peut revenir à ce passage plus tard. Tous ceux qui maintenant faites bien attention ici. C'est précis ici. Ces mots sont précis ici. Tous ceux qui veulent prendre part à l'enlèvement doivent sortir de cette séduction satanique dans laquelle ils ont été entraînés, qu'ils aient été influencés par des on-dit, ou par un quelconque écrit. Ils doivent être délivrés de cet envoûtement. C'est pas une magie, c'est un vrai envoûtement que Satan a fait. C'est pas de magie, c'est un vrai envoûtement. C'est nous, on veut être enlevés. Il doit y avoir une restauration, une remise au point, quelque chose où on déclare que toute chose a été mise à sa place. Ça aussi, ça doit être mis à sa place. Et ça fait partie, moi je l'écris moi-même, ça fait partie aussi de la restauration. Voilà pourquoi il était nécessaire cette restauration de l'arbre de l'Église, l'Église de Jésus-Christ, le retour, Malachie 4, 5, le cœur des enfants vers le cœur des pères. C'était nécessaire, c'est important. Plus que l'air que je respire, je ne sais pas comment dire. Donc, ça c'est le plan de la restauration du Seigneur. Vous y croyez? Moi, je crois que oui. C'est comme ça. Alléluia. On continue à lire. C'est alors que l'ordre divin dans l'Église, dans la famille et dans le mariage pourrait être restauré en commençant par 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Ça, c'est irréversible. Juste? Donc on peut lire ça. C'est irréversible, ça reste là. Ça, cette position est restaurée. Ça, c'est en règle. Et s'il n'y a pas cette chose-là, alors naturellement, Dieu doit nous aider afin que cette chose soit là. Et que ça reste, que ce soit là, et que chaque chose revienne dans l'ordre de Dieu, dans le plan divin. Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles qui sont décousues, et beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui arrivent. Ils sont tous ballottés, ils sont toujours complètement détruits parce qu'il n'y a pas une direction du Saint-Esprit pour mettre la chose en place. Je continue à lire, comme avec le peuple d'Israël. Ceux qui avaient été mordus par le serpent brûlant et venimeux devaient regarder au serpent des reins pour être guéris. De la même manière, tous ceux qui ont été empoisonnés du venin mortel du serpent doivent maintenant regarder dans la foi à Christ, le Rédempteur, car il est celui qui a écrasé la tête du serpent. Ce n'est qu'en regardant dans la foi au Sauveur crucifié qu'ils pourront être guéris de ce poison spirituel et mortel. Jean 3, 14 à 17. On va le lire. C'est important ici. Ce passage de Jean 3, 14 à 17. Quand le Seigneur a dit à Moïse, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, du peuple d'Israël, il a fait venir les serpents brûlants. Et qui les ont mordus. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. On peut lire cela dans Nombre. On peut voir pourquoi ces serpents ont mordu. Et comme maintenant, que Dieu vraiment nous fasse grâce. Que cette parole, c'est une parole prophétique. Voilà pourquoi ça doit revenir exactement au commencement. Et si ça ne revient pas au commencement, pour aller au commencement, disons de l'époque, les sept âges de l'Église, maintenant le dernier âge de l'Église, pour revenir au commencement, moi je dois regarder au serpent. Dieu nous offre le pardon, Dieu nous offre la solution définitive pour mettre fin à cet enchantement de Satan, à cet envoûtement de Satan. Vous voyez ? Mettre une fin définitive, de façon que la chose soit mise à jour, que tout soit mis à jour, comment, en ordre. Et Satan ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien vous réclamer, parce qu'il y a le plein pardon, la pleine réconciliation, qui redresse toute chose. On va lire ce passage. Jean 3. Alors que vous allez dire, mes frères, on connaît tout ça. Bien sûr, on connaît, mais nous allons confirmer encore plus. Parce qu'on parle de ce que Dieu a fait dans le désert. Restaurer, mettre en place. Donc, ici, au verset 13, Jean 3, 13. Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez faire le lien avec le temps de la fin? Quand il y a un passage, où on peut dire que les pentecôtistes en ont fait leur cheval de bataille. Et on peut voir comment ceci nous rapporte vraiment au retour à l'original. Pour avoir vraiment le pardon et avoir un cheminement avec Christ, de la vérité absolue. Et de la paix absolue. Ça, c'est important. Le Fils de l'homme, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ était le prophète. Il était le vrai et l'unique prophète. Le prophète des prophètes. Alléluia. Le prophète des prophètes. Amen. Ça, c'est glorieux. Amen. Amen. Alléluia. Comment Dieu peut parler à des personnes pour pouvoir les soutenir. C'est glorieux. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et maintenant, dans le Nombre 21. Nombre 21. Je crois que maintenant c'est bon, Nombre 21. Nombre 21. On connaît tous la situation. Nombre 21. Nombre 21. Donc vous pouvez le lire entièrement. Dans Nombre 21. De la volonté de Dieu. Nombre 21, au verset 6. Nombre 21, verset 6. Parce que la manne qu'il mangeait ne leur plaisait plus. Il la trouvait misérable. Donc, une traduction ici, misérable. Ou dégoûtée, disons. Voilà. Et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Donc, il mangeait tranquillement. C'est-à-dire, si quelqu'un vous donne à manger sans travailler, je ne sais pas. Donc c'est un passage lourd ici. Hein. Voyez un peu. Regardez un peu ça. Mais comment le monde religieux, dans le message, il a tout changé, il a tout chamboulé. Ils n'ont plus de force de la parole. On dirait qu'ils n'ont plus la force. Ils n'ont plus la puissance de transformer les cœurs et de donner vraiment la pleine réalisation de Dieu dans leur vie, de les changer complètement. Amen. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants. Et ils mordaient le peuple. Et de ceux d'Israël, il mourut un grand peuple. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. » Quand on est vraiment poussé à l'extrême, avec le dos au mur, alors là, il y a une réaction. Et parfois, il faut arriver là, pour pouvoir avoir la vraie réaction. Alléluia. Dieu nous pousse vraiment jusqu'au bout, pour avoir la juste réaction. Alors, le Seigneur envoie les serpents. Et ils sont allés à Moïse, au verset 7. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. » Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. Et Moïse fait un serpent d'airain. Dieu nous a fait comprendre c'était quoi le pardon. C'est quoi le pardon? Dans le temps passé, il le voyait, mais le vrai pardon, on peut vraiment le comprendre maintenant. La vraie grâce de Dieu, on peut vraiment la comprendre maintenant, parce que ce serpent, c'est la révélation de Jésus-Christ. Vous y croyez? C'est la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on parle de ça. On n'a pas le temps, Matthieu 17, 7. On n'a pas le temps. Beaucoup de passages ici, mais je ne vais pas rentrer là. Et Moïse pria. Regardez aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, si une personne, encore aujourd'hui, n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, il a la puissance devant Dieu, il a le pouvoir devant Dieu, en regardant le serpent de rein, en regardant cette croix, à cette réalisation-là qui a été faite sur la croix, il peut être guéri. Et il peut retourner vraiment comme au commencement, comme avant. Vous y croyez? Amen. Aujourd'hui, Dieu offre aux personnes, Dieu offre à l'individu, à quiconque, cette possibilité. Alléluia. Voilà ce que le message a apporté. C'est ça que le message a apporté. rien qu'en le regardant, rien qu'en le regardant. Donc je relis ici. Comme avec, donc je relis. Comme le peuple d'Israël, ceux qui avaient été mordus par le serpent brûlant et venimeux devaient regarder au serpent des reins pour être guéris. Donc on ne connaît plus personne selon la chair. De la même manière, tous ceux qui ont été empoisonnés du venin mortel du serpent, on le croit de tout notre cœur, juste. Tous ceux qui ont été empoisonnés du venin mortel du serpent doivent maintenant regarder de la foi à Christ, le Rédempteur, car il est celui qui a écrasé la tête du serpent. Ce n'est qu'en regardant de la foi au Sauveur crucifié qu'ils pourront être guéris de ce poison spirituel et mortel. Jean 3, 14 et 17. Moi, j'ai noté que dans toutes les époques, c'était comme ça. Dans toutes les époques, ça a toujours été comme ça. Parce que dans tous les âges, il y a toujours eu un problème de mariage et divorce. Il y a toujours eu cela dès le commencement. Il y a toujours eu des complications avec le mariage et le divorce entre les femmes, les hommes, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden. Et cette femme-là, ça a toujours été reporté continuellement, ça a toujours été comme ça. Jusqu'aujourd'hui, seulement la libération, en regardant la croix, en regardant, parce que l'antidote du venin du serpent, de, comment est-ce qu'on dit, c'est-à-dire l'hybridation, la non-vérité, c'est le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'antidote, c'est le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est l'antidote. Il suffit de faire une petite piqûre et on est guéri, on est transformé. Et on peut glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyez ça. Nous continuons. De prime abord, à première vue, tout semblait avoir pris fin au centre missionnaire. Nous venions à peine d'achever les deux bâtiments, tels que le Seigneur nous l'avait ordonné le 18 juillet 1978, lorsque tout l'enfer se déchaîna contre nous. Cependant, Dieu ne permit pas à Satan de contrer son plan, mais il nous bénit avec un nouveau commencement. Alléluia. Vous voyez, il nous a bénis avec un nouveau commencement. Et chaque fois qu'il y a un nouveau commencement, il y a une séparation. Vous y croyez? Et on va le lire, c'est vrai. Il y a toujours une séparation. Faites attention. Martin Luther est venu, il a dit « Mon juste vivra par la foi ». C'est pas les prières ou vos aumônes, vos forces qui vont pardonner vos péchés, qui pourront effacer vos péchés. Mais le sang de Jésus, la justification, vous y êtes? Quand il y a eu le passage vers la sanctification, quand il y a eu ce passage-là, beaucoup sont restés en arrière. Il y a une séparation entre les vierges folles et les vierges sages. Vous y croyez? Maintenant, on va le dire aussi. Il y a toujours cette séparation. Une partie est restée encastrée avec Luther, avec les protestants. Donc le protestantisme, jusque maintenant, ça existe. Et d'autres ont été de l'avant. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi, à la fin, beaucoup vont rester en arrière. Lisons cela. On continue à la lecture. Nous venions à peine d'achever les deux bâtiments, tel que le Seigneur nous l'avait ordonné le 18 juillet 1978, lorsque tout l'enfer se déchaîna contre nous. Cependant, Dieu ne permit pas à Satan de contrer son plan de Dieu, mais il nous bénit avec un nouveau commencement. Il continua son œuvre selon sa volonté. Depuis ce moment, des millions de gens dans le monde entier ont pu entendre la véritable parole. Un nombre incommensurable d'âmes furent sauvées et plusieurs sortirent de la confusion spirituelle. La préparation de l'Église épouse se poursuivit et en accord avec la parole révélée. Amen. Donc moi j'ai noté qu'en chaque réveil, bien de reprise, arrivé, il y a la distinction, une séparation. Matthieu 25, on parle des vierges, des dix vierges. Quelques années plus tard, Satan a entrepris une seconde attaque. Le 25 août 1987, quelqu'un m'accusa auprès du bureau des contributions d'impôts d'une supposée fraude fiscale. Ce ne fut qu'après la conclusion de la procédure d'investigation que j'appris que c'était quelqu'un de très proche. Naturellement, les fonctionnaires des contributions ne pouvaient que croire de telles accusations car elles émanaient des membres de la famille. À mon insu, il y eut aussi 6 hommes qui furent cités comme témoins, des frères qui auparavant faisaient partie de l'assemblée locale. Sur la base de ce qui fut officiellement transcrit le 31 octobre 1989, le jour de la réunification de l'Allemagne, avant 8 heures du matin, 6 hommes, dont des agents de fisc et des policiers de la ville de Düsseldorf, pénétrèrent dans le centre missionnaire. Ils passèrent au peigne fin toutes les chambres et les bureaux. Ils confisquèrent tous les documents et les embarquèrent dans les cartons. Je fus inculpé de 19 chefs d'accusation. Regardez un peu ça. Comment? Regardez Matthieu 10, 30, 37, 36, 37. Les ennemis principaux seront les gens de votre maison, des frères, ta famille, ta propre famille. C'est écrit. Vous voyez? Terrible. C'est terrible. Quand ça se passe, c'est terrible. Voilà pourquoi nous disons donc je suis inculpé de 19 chefs d'accusation. Donc les ennemis de l'homme seront toujours les gens de sa maison. Je fus inculpé de 19 chefs d'accusation et par conséquent, le statut d'association sans but lucratif du centre missionnaire fut retiré. La somme de 300. Ils réclamèrent la somme de 340 000 Deutschmark pour l'impôt des sociétés et 220 000 Deutschmark pour la taxe foncière. Vous voyez comment ils l'ont taxé? Et Dieu n'a pas permis que tout cela, que tout soit payé. Parce que Dieu ensuite a mis toute chose à sa place. Et il y a eu la même chose qui est arrivée au frère Branham aussi. Et vous l'avez déjà lu ça, dans sa biographie, etc. Donc on n'aurait jamais pu honorer de tels montants. Donc j'aimerais lire des passages. Proverbe 10, 25. Proverbe 10, 25. Proverbe 10, 25. Comme passe le tourbillon, ainsi le méchant n'est plus. Mais le juste est un fondement pour toujours. Vous avez compris? Proverbe 10, 25. Voilà. Comme passe le tourbillon, ainsi le méchant n'est plus. Mais le juste est un fondement pour toujours. Donc c'est cette église, c'est cette personne. N'est pas fondé vraiment sur le fondement. S'il n'avait pas donné sa vie entre les mains de Dieu, comme j'espère que chacun d'entre nous a fait, il continue à faire. De façon que quand vient la tempête, quand vient le trouble, quand vient le diable, que nous puissions rester tranquilles. Vous comprenez? 2 Timothée 2,19. 2 Timothée 2, 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur apprécie et vous voyez comment le Seigneur a gardé cet homme, cette église, malgré toutes ses attaques. Parce que le fondement, c'est Luc 6,48. On parle de l'homme qui est sage et qui a construit sa maison sur le roc, juste sur la révélation, sur la parole de Dieu. Amen. Je continue à lire. D'un point de vue humain, cela semble une fois de plus être la fin de l'église locale et l'œuvre missionnaire. On continue ici un peu plus loin, toujours de lettre circulaire décembre 2008. Lors de la réunion du 5 juin 1976, je fus contraint par une prophétie d'établir dans le ministère un frère et sa femme, qui avaient été cités par leur nom. Après cela, le « ainsi dit le Seigneur » était fréquemment prononcé, mais cette fois sous la mauvaise inspiration, par l'influence du serpent, comme cela a été révélé plus tard. Cela continua jusqu'à ce samedi matin du mois de novembre 1978, lorsque le Seigneur me recommanda d'une voix audible « Mon serviteur lit le livre des actes et cherche s'il y a un endroit où un homme et sa femme furent tous deux établis dans le ministère. » Ça, c'est établi, fondé, c'est la vérité totale. C'est alors que je compris que cette prophétie, parmi les autres, avait été contraire aux saintes écritures. Et là, c'est un brusque freinage. Un brusque freinage pour les dons. C'est ça que je voudrais dire, c'est important. Un brusque arrêt des dons. Parce que ces choses-là ont fait que le diable s'est introduit. Et alors, les vrais dons non plus ne se sont plus manifestés. Que maintenant, l'Église désire. Amen. Je continue. Chacun de nous tous, y compris les frères dans le ministère, étions tellement impressionnés par les moments bénis et merveilleux que nous vivions, que nous n'avions pas considéré l'éventualité que l'ennemi, pour accomplir son œuvre destructrice, pourrait se glisser sous le couvert de la piété, puis de manière astucieuse abuser des mêmes lèvres qui, auparavant, transmettaient les directives de la part du Seigneur. Faites bien attention. Voilà l'atmosphère, voilà la bénédiction. Disons, le premier amour, on peut dire ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est la vérité. Ce premier amour a été vraiment scellé dans le cœur pendant toutes ces années. Ça a été scellé. Ensuite est venu le désastre. Ça, je peux vous le dire, parce que je l'ai vécu, je peux vous le dire. Ça, je peux le dire avec certitude. En plus de cette sœur qui avait des dons spirituels, une soi-disant prophétesse de Berlin et deux frères bien considérés n'appartenant pas à notre assemblée locale furent impliqués. La sentence de cette machination destructrice, ainsi que ses conséquences telles que la diffamation, la haine et l'inimitié, qui ont détruit des mariages, des familles entières et même des assemblées, sera prononcée au jugement dernier. Vous avez compris ? Cette même sœur quitta l'assemblée, prit les prophéties qui étaient sorties de sa bouche et qui avaient été consignées par écrit, il y en avait plus de 40, les déchira devant mes yeux et les jeta dans la poubelle. Des paroles sans retenue furent exprimées, telles que « Je dois te détruire, je dois détruire ton œuvre. Si je reste avec toi, je ne pourrai le faire. » C'était l'influence directe de l'ennemi qui séduisit une femme
afin qu'elle se sépare de son mari et qu'elle engage un avocat spécialisé dans les divorces. Mais ça, ça existe. Après cet acte de destruction, des paroles inconcevables furent proférées par la même bouche, au point de déclarer, faites attention ici, plus jamais je n'entrerai dans ce bâtiment, même s'il arrivait qu'un mort y ressuscite. Vous avez compris ça? La conséquence de tout cela, c'est que tous ceux qui ajoutèrent foi à cette voix se laissèrent entraîner dans cette révolte, se séparèrent de l'assemblée, continuèrent à marcher dans leur propre voie et sont devenus des dénigreurs. Acte 13:41. Dénigriteurs, ou bien des contempteurs, dénigreurs ou contempteurs. C'est dans Acte 13:41. On a déjà lu ça. Cette personne, ces autres, n'ont pas été là. Donc je dis ça pour réveiller votre esprit. Je le dis de tout mon cœur au nom du Seigneur. Vous vous souvenez de l'Ancien Testament, parfois il y a des rois qui disaient quand ils faisaient des imprécations, des exécrations, aussi vrai que Dieu a vrai que Dieu est vrai, je ne ferai pas ceci, je ferai ça, etc. Donc des imprécations, des sentences, Dieu les écoute, attention. Quand ça sort d'une âme, comme ça, ça peut être une bénédiction, mais ça peut être une malédiction. Ça peut être pour le... ça peut être exalté pour prononcer le Seigneur, mais ça peut être aussi pour une perte. Donc ces imprécations, ces exécrations, encore aujourd'hui, on peut encore le voir, parce que ces personnes-là ne sont plus jamais entrées. Dieu n'a plus permis. Moi, je peux lire des passages. Donc, c'est 9h30. Donc, c'est écrit que ces choses, aujourd'hui, ça existe encore. Ces choses existent dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau. Dieu doit nous préserver et doit nous faire grâce d'être attentifs de la manière dont nous exprimons nos sentiments que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Vous y êtes? Jérémie 42. Jérémie 42, 18. David a dit, je ne donnerai pas sommeil jusqu'à ce que une maison soit établie pour l'Éternel. Vous voyez, il a dit. Il a fait de tout pour faire ce qu'il a demandé, ce qu'il a voulu faire, et aussi pour les autres mauvaises, les choses mauvaises aussi. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis à David de faire cela, parce que c'est un homme de sang. Bon. Mais c'est un homme selon le cœur de Dieu, vous voyez? Donc cette chose est importante. Important que nous, chrétiens, croyants du message, nous comprenions ces choses par l'esprit et nous les réalisions. Et qu'on est attentif, tranquille, afin que Dieu nous guide. Lui, pas le diable. Juste. Alors, Jérémie 42, 18. Jérémie 42, 18. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, comme ma colère et ma fureur ont été versées sur les habitants de Jérusalem, ainsi ma fureur sera versée sur vous si vous allez en Égypte. Et vous serez une exécration. Ça, c'est une sentence, une exécration. Vous avez compris cette position? Moi, je connais des personnes. J'en ai connu. J'ai même connu après. Et qui ont fait un massacre C'est vrai. On va lire après. Donc ce passage, c'est important. Donc c'est Dieu même qui déclare, qui dit stop, fini. Et en effet, Josué, chapitre 5, nous donne aussi la preuve que tous ceux de l'ancienne génération, voilà, tous ceux du message du temps de la fin, ces vierges sages, entreront pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, pour être enlevés avec Christ. Vous avez compris, vous êtes Josué 5. Ils sont, avant d'entrer dans la terre promise, ils étaient tous circoncis. Et une nouvelle, et c'est la nouvelle génération qui sont entrés dans la terre promise, mais pas eux, mais par les anciens. Amen. Encore un autre passage. Daniel 9. Daniel 9, 11. Donc Daniel 9, 11, le prophète Daniel 9, 11. Après les 70 ans, Jérémie avait aussi l'insigne du Seigneur. Il avait compris que les 70 ans étaient passés. Et alors il avait une prière au Seigneur. Et cette prière a fait que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il retourne de nouveau en Israël. On lit ça. Daniel 9, 11. Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versées sur nous l'exécration. Ça peut être imprécation, exécration. Exécration, imprécation. Vous voyez dans certaines Bibles. Daniel 9, 11. Et le serment qui sont écrits. Donc une déclaration ferme, nette. Vous voyez ? Malédiction et imprécation dans d'autres versions. Malédiction et imprécation dans d'autres Bibles. Et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, etc. Ensuite, il prie le Seigneur qu'il incline son oreille, afin qu'il écoute la prière, et que les désolations puissent passer, etc. Que Dieu vraiment nous aide, fasse grâce, de pouvoir voir la situation d'aujourd'hui, de pouvoir combien de choses ont été mal mises, et que nous puissions vraiment prier le Seigneur de tout notre cœur, afin qu'il y ait un retour définitif à ce que Dieu a mis, pour restaurer et remettre à nouveau toutes choses en mouvement, l'horloge de Dieu, pour pouvoir revenir dans la terre promise. Et on n'a pas le temps de rentrer là-dessus. Cette parole est importante. Deux rois sept. On voit que le roi s'appuyait sur cet homme. Et Élisée a prononcé une parole. Au verset 16. Et le peuple. Donc 2 Rois 7:16. Et le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et la mesure de fleurs de farine fut à un sicle, et les deux mesures d'orge à un sicle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi avait commis à la garde de la porte le capitaine sur la main duquel il s'appuyait. Et le peuple le foula aux pieds dans la porte. Et il mourut selon ce qu'avait dit l'homme de Dieu, ce qu'il avait dit quand le roi était venu, descendu vers lui. Et il arriva selon la parole que l'homme de Dieu avait adressé au roi, disant, « Les deux mesures d'orge seront à un sicle, et la mesure de fleurs de farine sera à un sicle. Demain, à cette heure-ci, à la porte de Samarie, Le capitaine avait répondu à l'homme de Dieu et avait dit, « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, pareille chose arrivera-t-elle ? » Et il dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » quand on est hors de soi, quand on est... Donc si c'est cet esprit, gloire à Dieu, mais si quelqu'un est hors de soi, c'est-à-dire que le diable nous pousse, que Dieu vraiment fasse grâce à l'homme. Voilà. Que Dieu enseigne nos cœurs et nos sentiments, qu'ils prennent possession. Vous avez compris ces choses? Parce que Dieu, c'est pas un Dieu qui n'a pas d'oreille. Dieu écoute, Dieu nous voit. Je continue la lecture ici du frère Franck. L'ennemi s'infiltra dans le troupeau pour frapper le berger afin de disperser les brebis. Cela se répercuta dans le monde entier et eut pour conséquence que des frères dans le ministère devinrent les proies de cette influence perverse, ce qui explique pourquoi ils propagent des doctrines pernicieuses et participent à la diffamation de celui qui apporte la vraie parole de Dieu. En dépit de tout cela, cette parole demeure vraie pour toute l'éternité. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre la vraie Église. Maintenant commence une nouvelle phase. La puissance de résurrection de notre Seigneur sera manifestée parmi les siens. Vous voyez, la séparation entre les frères est arrivée. Je l'ai vécu. C'est dès ce moment-là qu'il y a eu un détachement. Donc, les fausses doctrines sont parties là aussi en Allemagne. Et ils se sont propagés partout. Et ça a vraiment apporté la boue dans le cœur des croyants. Donc, le message a commencé à perdre la crédibilité. Et quand, en ce qui concerne l'amour, comme on avait lu, quand j'avais lu qu'il y avait une grande bénédiction, je ne trouve plus ce que le frère avait écrit, mais c'est à partir de ce moment-là, là où Dieu a établi vraiment, mais vraiment, ce qui était divin, ce qui était surnaturel, le message qui entre dans le cœur, la restauration qui entre dans le cœur. Quand il s'est passé ça, dès ce moment-là, voilà pourquoi, si tu frappes la tête, les brebis seront dispersées. Et le diable veut faire cela, mais le vrai amour de Dieu, faites attention à cela. Il ne s'est pas perdu. Ceux qui sont restés fermes sont restés fermes. Ils sont encore là. Alléluia. Tous les autres ont fait la séparation. Mais on va lire ça. Donc, ce qui arriva dans le jardin d'Éden, dans le domaine naturel, sous l'influence du malin, apporta la mort naturelle. De même, ce qui arriva ici dans le domaine spirituel, que Dieu ait pitié, frère Franck écrit, que Dieu ait pitié, provoqua la mort de plusieurs âmes précieuses. Et ça s'est vraiment passé. Néanmoins, si l'œuvre de destruction n'avait pas eu lieu, Satan, en tant qu'ange de lumière, eut continué sa séduction et les deux différentes semences ne se seraient jamais manifestées. Attention à cela. Et nous le croyons tous, entre les vierges folles et les vierges sages. Ainsi dit les Écritures, la parole. Faites bien attention à ça. Je continue. Donc néanmoins, si l'œuvre de destruction n'avait pas eu lieu, Satan, en tant qu'ange de lumière, aurait continué sa séduction et les deux différentes semences ne se seraient jamais manifestées. Dieu permit la séduction dans le jardin d'Éden et dans ce lieu afin de mettre fin au mélange. Qu'est-ce que vous en dites de cette parole ? Vous y croyez? Est-ce que vous l'acceptez comme venant du Seigneur? Est-ce que c'est la vérité? On n'a pas le temps de lire tous les passages d'Écriture. Avec ces vierges sages, ces vierges folles. Parce que malgré tout, ils se sont séparés. La vierge sage, la vierge folle se sont séparées. Il y en a qui ont été chercher de l'huile sur la traversée des noces. Ils se sont séparés. Et aujourd'hui, on peut le voir encore très bien. Dieu donne faire grâce pour pouvoir le réaliser et dire oui, c'est vrai. Parce que le mélange, Dieu, jusque maintenant, Dieu connaît les siens. Voilà pourquoi je dis, les élus ne pourront jamais être séduits. Voilà pourquoi il est écrit, la Vierge sage se tenterait. Voilà l'époux aller à sa rencontre. Ils ont pris de l'huile avec eux. Ils sont entrés dans la salle de noces. Alléluia. Vous y êtes? Est-ce qu'on comprend cela? Le temps qu'on vit? Comment on le vit? Moi, je crois que oui. Alléluia. Cependant, nous pouvons être capables de placer cela correctement que si nous lisons une fois encore la prédication de Frère Branham, mariage et divorce, et comprenons pourquoi il a dû retourner au commencement à la séduction d'Ève, ce qui en résulta, et pourquoi il a dû le confirmer avec le ainsi dit Seigneur. Tout a eu lieu, tout a commencé dans le jardin d'Éden, tout a eu lieu dans la Genèse. Voilà pourquoi il retourne là. Voilà pourquoi le frère Branham est retourné là. Il devait partir du commencement, expliquer tout depuis le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Et il s'est révélé parfaitement, sachant exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc on peut voir parfaitement tout cela. Dieu nous a fait réaliser cela. Mais pas avec l'intellect. Parce qu'avec l'intellect, on ne fait pas la volonté de Dieu, mais en réalisant ce que Dieu a fait de ta vie, pour te séparer des choses matérielles, des choses charnelles, pour recevoir les choses spirituelles. Alléluia. Et en retournant à ce mariage-divorce, vous voyez, en retournant à ce mariage-divorce, pour pouvoir bien l'expliquer parfaitement, et bien prononcer le « ainsi dit le Seigneur », il fallait revenir, il fallait qu'il revienne à la Genèse, ou à commencer le mélange, n'est-ce pas? Juste? Amen. Beaucoup de gens, j'ai déjà entendu, qui disent « on est tous sauvés ». C'est vrai qu'il y aura beaucoup de sauvés. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le sang de Jésus-Christ a purifié toute chose. C'est juste, c'est vrai. Mais à qui il a purifié toute chose? À qui? Alléluia. C'est important de le comprendre, de savoir ça, de savoir ces choses. Donc je continue à lire. Nous sommes pleins d'assurance, sachant que l'époux céleste appellera à sortir son épouse terrestre et qu'il achèvera sa préparation. Dieu savait comment il allait exécuter son plan du salut après ce qui arriva dans le jardin d'Éden. Il sait aussi pourquoi il permit tout ce qui se déroula ici. Cela fut certainement une partie de son plan parfait du salut pour le temps de la fin. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu qui est resté ancré dans la parole, qui est ancré avec la révélation, avec la transformation, avec la restauration, pour pouvoir continuer d'aller de l'avant, et qui s'est séparé. Voilà. Et on peut voir maintenant ce qui se passe. Voilà. Chacun sait exactement. Manifestement, Satan se tient devant l'Église, comme cela est prédit dans la dernière phase avant l'enlèvement. Apocalypse 12. Au début, il réussit son objectif, c'est-à-dire jeter l'opprobre et le mépris sur le messager et le message, car il lui fut apparemment permis de cribler l'Église épouse. Néanmoins, Nous sommes certains que le bon grain reste dans le crible. La balle, donc la paille, la balle, ce qui reste autour, la balle seule sera dispersée à tout vent de doctrine. Vous voyez, quand on secoue la balle, donc ce qui entoure le grain, c'est la même forme, on dirait, du blé. Mais à l'intérieur de cette balle, il y a du grain. Mais la balle, ce qui est autour, ça doit partir. Il y a une prédication que la balle ne va pas hériter avec le blé. La balle, donc là, ce qui entoure le grain, une espèce de paille. Seule, la balle seule sera dispersée à tout vent de doctrine. On s'arrête ici. On s'arrête ici. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons reprendre ce passage des Écritures dans Apocalypse 12 pour voir un peu la situation. De comment aujourd'hui cette chose est manifestée. Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Ce sont des choses précieuses, c'est vrai. Et c'est à partir de ce moment-là, quand il s'est passé cette déviation, tout ce qui s'est passé, donc je dis simplement ceci pour compléter un peu, parce que c'est important ça aussi. Ce qui s'est passé, beaucoup, à partir de ce moment-là, beaucoup de chers frères qui semblaient, qu'on pensait qu'ils pouvaient marcher avec nous, qu'ils pouvaient construire apparemment quelque chose pour construire le Seigneur, pour marcher ensemble, ils se sont complètement séparés, éloignés, en détruisant ce que Dieu avait déjà commencé, en détruisant ce que Dieu avait commencé. Mais comme on l'a lu, on ne peut rien contre l'Église de Jésus-Christ. Le diable ne peut rien faire. Alléluia. Soyons heureux, comme disent les Écritures, et qu'on puisse comprendre quelle est la direction, la vérité. Alors là, Dieu vient et bénit et complète son œuvre. Alléluia. Amen. Je crois qu'encore ce soir, Dieu nous a donné quelque chose. Amen. Quelque chose que nous avons pris et compris. Alléluia. Il est vrai que ce sont des choses importantes et profondes. Mais voilà, le Seigneur connaît les siens. Il nous connaît tous. Et il sait que ces choses, c'est pour nous, pour nos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur appellera encore. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Et pour tout ce qu'on peut réaliser, pour la parole, pour toutes choses. Amen. Qui veut remercier le Seigneur? Maintenant, je fais le calcul. Donc, pour le frère Bruno, c'est 1h du matin, presque 1h du matin. Dieu te bénisse. Nous allons prier et congédier. Et nous présenter encore une fois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci, Père Céleste. Gloire à ton nom, nous te remercions encore, Seigneur, parce que tu t'es révélé dans nos vies. Et ça, c'est la chose la plus grande, Seigneur, que nous avons pu recevoir dans notre vie. Parce que dans la révélation, dans le nom de Jésus-Christ, il y a la puissance. Il y a tout, Seigneur. Parce que tu t'es fait homme, tu es venu pour nous sauver de ce monde de péché, Seigneur. Parce que nous étions pécheurs, nous étions dans le péché, nous ne savions pas. On pensait être bien,
Mais quand toi, Seigneur, tu t'es révélé dans nos vies, on ne pouvait rien faire que de t'élever et lever les yeux au ciel dans notre condition et crier à toi. Et tu nous as donné la libération, Seigneur. Nous nous sommes tournés vers cette croix, Seigneur. Et le serpent a dû lâcher proie. Et il a été mis sous nos pieds. Tu as vaincu le monde, le péché, chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons abandonner notre vie à toi. Tu es notre bon pasteur. Et Seigneur, nous avons reconnu ta voix. Nous venons derrière toi. Et nous irons derrière toi jusqu'à la fin, malgré nos difficultés, malgré, Seigneur, parfois nous tombons. Mais toi, tu es toujours prêt, Seigneur, à prendre soin de nous. Merci, Seigneur. Et à la fin de cette journée, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ce que tu nous as donné. Parce que c'est vrai que c'était nécessaire que vienne cette séparation, Seigneur. Car tu sépares toujours, Seigneur, les choses bonnes des choses mauvaises. Et ainsi encore à la fin, Seigneur, nous voulons nous séparer de ce monde de péché. Écoute nos prières, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu écoutes nos prières. Continue, Seigneur. Aide-nous. Bénis encore le frère Bruno, qui t'a trouvé sa maison aussi. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Seigneur, aide-le pour te servir, bénis-le, protège-le, et nous tous, Seigneur, donne-nous ta protection. Nous invoquons ton nom, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu es avec celui, c'est celui qui prend soin. Et c'est glorieux de savoir que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu prends soin de nous. Oui, Seigneur, nous ne regardons pas aux choses qui sont venues devant nos yeux, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Continue d'œuvrer dans nos vies, Seigneur. Bénis encore tous ceux, tous tes ministres, tu sais. Bénis encore le frère Franck, Seigneur. Nous avons lu ceci et nous voulons être modélés par ta parole, Seigneur. Donne-nous toujours d'être, continue d'œuvrer, Seigneur. Bénis, Seigneur, ceux qui n'ont pas prié, mais qui en ont besoin, qui ont besoin de toi, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Donne ta guide jusqu'à la prochaine fois, Seigneur, que nous allons nous rencontrer, Seigneur. Bénis encore dans nos nuits, dans nos lits, et que nous puissions encore penser à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Que ça puisse produire du fruit dans nos vies. Accorde-nous toutes choses, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, le remerciement. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Père Céleste. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir.